Occitanie.
Un reportage au fil de l'eau
par la classe média.
On sait tous que l'eau est vitale. On peut s'y baigner, jouer avec ou tout simplement la boire.
Vous avez sûrement l'impression de la connaître, mais est-elle si pure?
Si parfaite?
Aussi transparente qu'elle n'y paraît? Les risques, les connaissez-vous? Vous êtes-vous déjà questionné? Avez-vous déjà investigué?
Sur notre eau d'Occitanie.
Vous, sûrement que non. Mais ne vous inquiétez pas, nous, on l'a fait pour vous. Du coup, t'es prête pour le reportage sur l'eau?
Ouais, j'installe ChatGPT sur mon ordinateur.
Mais on est la classe média, pas besoin de ChatGPT, on va investiguer.
Si vous êtes si fort, dites-moi pourquoi je vois de nouvelles bestioles dans nos rivières.
Ok, viens assister au procès de ces espèces.
Silence dans la salle, le tribunal écologique du Vidourle est ouvert. Aujourd'hui, nous examinons une affaire de la plus haute importance, l'invasion de notre rivière par des espèces exotiques. À la barre, la tortue de Floride, l'écrevisse de Louisiane, chacun devra répondre de ses actes. Premier accusé, la tortue de Floride. Accusé, comment plaidez-vous?
Votre honneur, je suis innocente. C'est pas moi qui voulais venir ici. Ce sont les humains qui m'ont relâchée quand ils ont compris que je n'étais pas une bonne idée de cadeau d'anniversaire. Moi, je me suis juste adaptée.
Certes, mais vous mangez les larves d'insectes et vous entrez en compétition avec les tortues locales. Tortues locales qui, elles, sont en voie de disparition.
D'accord. Mais est-ce que c'est ma faute si je suis plus résistante qu'elle?
Vous oubliez aussi que vous transmettez des maladies aux vraies tortues locales et que vous les privez de nourriture.
Oups, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, je suis robuste, je m'adapte, je n'ai pas demandé à venir ici. Et puis, je suis quand même plus jolie qu'une cistude, non?
On ne juge pas par la beauté ici. Il s'agit d'un procès écologique et vous êtes une menace pour l'équilibre du Vidourle.
C'est toujours moi qu'on accuse.
Silence accusé! Cessez de prendre la parole sans autorisation! Deuxième accusé, l'écrevisse de Louisiane.
Franchement, vous devriez me remercier. Grâce à moi, il y a plein de pêcheurs qui s'amusent à me capturer. Ça met un peu d'animation, non?
Vous pensez que détruire l'écosystème, c'est une bonne façon d'animer la rivière?
Vous dramatisez tout. Je ne fais que creuser un peu, grignoter ce que je trouve. Ah, et me reproduire, c'est vrai, beaucoup. Mais bon, c'est ça la vie.
Sauf que vos galeries fragilisent les berges et détruisent les habitats de nombreuses espèces.
Oh là là, je suis désolée, vraiment. Mais bon, que voulez-vous que je fasse? Je suis une survivante, moi.
Une survivante qui met en danger tout l'écosystème. Il va falloir trouver des moyens de vous réguler. Et vite.
Bonne chance, je suis indestructible.
Ne soyez pas insolente. Silence ou je fais évacuer la salle. La Fédération de pêche du Gard nous a bien renseigné. Vous êtes si dangereuse que vous menacez de nombreuses espèces de poissons en mangeant leurs œufs.
Alors, qu'allez-vous faire?
Notre verdict est sans appel. La Fédération de pêche a le droit de vous capturer avec des pièges fixes et vous serez relâché dans des milieux moins fragiles. Bon, les tortues de Floride, les écrevisses de Louisiane, on vous donne une OQTV, obligation de quitter le territoire du Vidourle.
Ouah, dis donc, ça fait beaucoup de dégâts. Le Vidourle, ce n'est pas qu'un spot pour les poissons. C'est aussi un peu le Colonne May pour les espèces invasives.
Et comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi le développement des algues, histoire de transformer la rivière en véritable jungle aquatique.
Tu sais quoi, on va écouter Eloïc, Mado et Noé qui ont enquêté sur ces algues dans le Vidourle.
J'ai grave envie de me baigner dans le Vidourle.
Mais attends, c'est quoi le Vidourle?
Le Vidourle, c'est une rivière qui prend sa source dans le sud des Cévennes. Il passe dans le Gard pour ensuite se jeter dans la mer Méditerranée. Mais en 2019, des algues dont le Potamo, des algues extrêmement invasives, ont proliféré au point de découvrir la quasi-totalité du Vidourle avec un visuel pas très agréable. Et cela ne plaît pas aux touristes ni aux locaux qui ne veulent plus se baigner.
Mais en quoi ça dérange?
Moi c'est mort, je vais pas pêcher et encore moins baigner dedans.
La communauté de Sommières a déjà retiré plus de 32 mètres cubes d'algues dans le Vidourle à l'aide de bateaux de faucardage qui utilisent le même système que pour faucher le foin. Mais ils prévoient de retirer encore cet été.
T'inquiète, c'est pas nocif.
Oui, mais connais-tu les cyanobactéries? C'est des agglomérations de millions de bactéries que si tu en manges, tu peux en mourir. Et c'est aussi très dangereux pour les animaux, comme les chiens ou encore les chevaux ou les vaches.
Ah ouais, c'est vraiment dangereux, mais du coup, c'est dû à quoi?
Cette agglomération d'algues est due à la chaleur qui empire chaque année à cause du réchauffement climatique. J'espère qu'on t'a fait passer l'envie d'aller te baigner là-dedans.
Je sais pas, je peux me baigner dedans du coup ou pas?
Oui, tu peux, mais à tes risques et périls.
Perso, moi je me baignerai pas dans le Vidourle, même mon cheval refuse d'y aller.
Ça me fait penser au reportage qu'on devait voir en histoire géo sur l'impact de nos gestes.
Oui, tu as raison, il y avait aussi une partie sur... Attends, comment ça s'appelle déjà? Un truc comme les méga bassines.
Perso, j'ai absolument rien compris.
Et je crois qu'à ça non plus.
Ah oui, je me suis renseignée l'année dernière, parce qu'il y a eu des tensions à ce propos. Tu veux que je t'explique?
Ouais, dis-moi, parce que là, je suis perdue. Même déjà, c'est quoi une méga bassine?
Bah, les méga bassines sont des réservoirs artificiels d'eau destinés au stockage. C'est-à-dire que c'est un équipement qui sert à organiser une activité, dans ce cas-là, l'agro-industrie. Pour revenir à nos méga bassines, ce sont des équipements de grande taille, pouvant contenir plusieurs centaines de milliers de mètres cubes, soit l'équivalent d'une dizaine de terrains de foot.
Eh, autant!
Mais oui, t'imagines même pas. En plus, elles sont creusées dans le sol et même plastifiées avec des bords incurvés. Et l'eau est à l'air libre.
Ah ok, mais concrètement, à quoi ça sert? Vous, les auditeurs, vous savez, hein. Moi, personnellement, je sais. J'ai juste compris que c'est pas là où on va faire trempette cet été.
Tu m'étonnes. Les méga-bassines sont utilisées pour l'agriculture, notamment dans le sud de la France, où l'irrigation est vraiment importante. Elles permettent de stocker l'eau en période de surplus, principalement l'eau de pluie, pour irriguer les cultures en période de sécheresse.
Mais attends. Pourquoi parle-t-on de réservoir artificiel si c'est de l'eau de pluie?
Parce que le réservoir en lui-même et son mode de gestion le sont.
Ah ok, mais en quoi les tensions qu'il a eues l'année dernière ont à faire avec ça? C'est juste de l'eau de pluie dans un réservoir quoi?
Bah en fait, la problématique est que l'eau pompée pour ces réservoirs pourrait être utilisée autrement, ce qui provoque des tensions entre agriculteurs et habitants.
En gros, ils sont concurrents pour cette eau-là.
Voilà, les partisans de ces bassines sont principalement des agriculteurs qui estiment que c'est une solution face aux sécheresses extrêmes. Selon eux, ces réservoirs ne pompent que l'eau en surface et n'impacteraient pas les eaux en profondeur.
Et le contre?
Ben, les opposants, eux, ils considèrent que ces bassines aggravent la sécheresse au lieu de la résoudre. Moins d'eau disponible pour les sols, les rivières et la biodiversité locale.
Mais aussi, vu que c'est à l'air libre et qu'en plus, elles sont dans des zones de sécheresse, l'eau peut s'évaporer, non?
Oui, t'as tout à fait raison. Il y a de grandes pertes d'eau. 40% de l'eau stockée s'évapore. T'imagines, c'est énorme! Car les bassines sont plastifiées et l'eau ne s'infiltre plus dans le sol, rendant la zone encore plus sèche.
Ah mais du coup, il y a les animaux aussi!
Eh ouais, parce que pour laisser de la place aux bassines, on rase la verdure où se trouvaient les animaux.
Et la sécheresse fait en sorte que les animaux ne puissent pas se nourrir et boire.
Eh mais en fait, Asya, t'as tout compris. C'est pour ça qu'il y a eu ces fameuses manifestations. Bah oui, les gens ils disent que c'est pour le bien des plantes, alors que c'est juste pour faire de l'argent.
Et c'est pour ça que dans le reportage qu'on a vu, il parlait des manifestations à ce sujet, surtout sur les méga-bassines de Sainte-Soline.
Ouais, parce que c'est un des plus grands projets de méga-bassines en France.
Jet de pierre et cocktail Molotov, gaz lacrymogène et tir de LBD. Deux jours après les affrontements entre 3000 policiers et gendarmes et les militants anti-bassines, le débat fait toujours rage.
Finalement, le débat sur les méga-bassines pose une question plus large. Comment voulez-vous gérer l'eau face à ce changement climatique? D'une certaine manière, c'est un peu comme le débat sur les piscines privées, mais à toute autre échelle, à l'échelle individuelle.
Et les nappes phréatiques dans tout ça alors?
Merci Samitsu. Bon, si j'ai bien compris, les méga-bassines sont tout simplement de grosses gourdes pour l'agriculture.
Mais pour répondre à ta question, Asya, et y voir plus clair, allons demander à Clovis, Alessio, Etienne et Noé.
Eh bien, en ce moment, les nappes phréatiques, c'est un sujet brûlant. Mais qui sait ce que c'est exactement, les nappes phréatiques?
Bon, déjà, il faut savoir que les nappes phréatiques, dans le Gard, comme partout ailleurs, sont essentielles pour notre civilisation moderne. Elles alimentent nos maisons, comme pour les douches, robinets, machines à laver, etc. Notre façon de vivre dépend énormément de notre accès à l'eau. Une nappe phréatique, c'est quoi en fait?
C'est assez simple. C'est une nappe d'eau souterraine. Et dans le Gard, alors?
Alors, les nappes phréatiques dans le Gard sont au nombre de 42, surtout dans la partie sud du département. Mais il n'y en a que 16 de suivies, elles sont étudiées et observées par la BRGM, Service Géologique National. Mais du coup, c'est quoi qui pose problème alors?
En premier, il faut savoir que l'eau de pluie percole jusqu'à la nappe phréatique, c'est-à-dire qu'elle glisse tout doucement sous la terre et du coup son niveau d'eau monte ou baisse en fonction des précipitations. Ces nappes sont alors particulièrement sensibles aux phénomènes de sécheresse.
En plus, comme elles sont peu profondes, c'est le type de nappe le plus exploité dans l'eau potable et l'irrigation en France. Les forages sont simples et peu coûteux. C'est pour ça qu'on pompe un max.
Donc elles sont hyper sensibles à tout en fait. La sécheresse, les besoins des habitants, les problèmes écologiques et même l'économie d'argent possible. Les nappes, on les voit pas, mais elles sont grave importantes. Ça, j'ai pigé. Mais attendez, la sécheresse chez nous alors, ça en est où?
Bah, c'est plutôt moyen. Depuis un an, même avec les pluies fréquentes, le niveau des nappes reste bas. Et niveau population, vous savez ce que ça donne ?
La population du Gard augmente énormément, ce qui augmente donc la demande en eau, surtout dans notre région, où il y a de forts besoins pour les piscines et même pour le tourisme. Et c'est vital économiquement, du coup, c'est difficile à restreindre. Et alors, les conséquences ?
Ben, les conséquences, il y en a plusieurs. Tout d'abord, sur les gens. Il se peut qu'il y ait des pénuries d'eau potable. Mais le plus important, c'est sur l'environnement. Car il y aurait plusieurs dégradations au niveau de l'écosystème et de très grosses pertes au niveau de la biodiversité.
Mais ça veut dire quoi tout ça ?
Eh bien, ça veut dire que tout le monde est touché.
Pour faire simple, sans les nappes phréatiques, on est bien embêté. Mais on peut encore agir, grâce à toutes sortes de solutions, comme réduire sa consommation d'eau potable en prenant des douches moins longues, arrêter d'utiliser de l'eau potable pour les chasses d'eau, mais aussi adapter les cultures au climat.
Avec quelques efforts au quotidien, on peut tous améliorer et surtout réduire notre consommation en eau potable.
Merci les gars pour toutes ces infos. Oh, t'es là Jeanne ?
Ouah, l'odeur !
Comment ça Jeanne ? Je pue ?
Mais non ! Je viens juste d'accompagner mon frère au lycée et il y avait une odeur.
Ah, attends, le lycée ? Celui à côté de la station ?
Oui, de la station d'épuration.
Comme Morgane, qui s'est rendu compte en allant sur place. Attends, allons le voir.
Salut les gars !
Salut !
J'ai une question à vous poser.
Ouais, vas-y, on t'écoute.
Hier, je me suis promenée vers le lycée et j'ai senti une odeur qui, je ne vous le cache pas, ça sentait pas bon du tout et je me suis demandé ce que c'était.
Mais c'est normal, t'es passé à côté d'une station d'épuration et t'as de la chance, on en a visité une il y a pas longtemps et on a plein de trucs à te raconter. Si tu veux, je peux t'expliquer ?
Je veux bien.
Alors, une station d'épuration, c'est une installation qui a pour objectif d'assainir les eaux usées qui viennent des villes, des usines, etc. pour ensuite être rejetées dans la nature. En gros, elle nettoie l'eau pour qu'elle ne soit pas dangereuse pour l'environnement.
Mais alors, pour l'entretien, qui s'en occupe ?
Ce sont les communes en partenariat avec des entreprises privées comme Veolia qui sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées.
Et du coup, comment on fait pour transformer une eau sale en eau propre ?
Il y a plusieurs étapes pour cela. En premier, les gros déchets sont filtrés. Puis, le sable et les graisses sont enlevés. Ensuite, des bactéries décomposent les impuretés et on enlève tous les détritus qui sont dans l'eau. Enfin, cette eau récupérée est traitée avant d'être évacuée. Le résultat de tous ces traitements est une eau qui est assez propre pour être relâchée dans la nature.
Mais si l'eau n'est pas bien nettoyée et qu'elle est rejetée dans la nature, y a-t-il des conséquences ?
Bien sûr, l'impact des eaux usées sur l'environnement peut être dévastateur. Les eaux usées contiennent des polluants tels que des bactéries, des métaux lourds et d'autres toxines qui peuvent polluer le cours d'eau, contaminer le sol et nuire à la faune. C'est pour cela qu'il existe des stations d'épuration.
Et maintenant, on retrouve Armand, notre envoyé spécial sur le terrain, à la station d'épuration de Sommières. À toi Armand, on t'écoute.
Il reste encore ou pas des polluants après ?
Alors ça dépend des polluants.
Il y a certains polluants, comme les bactéries par exemple, on ne les élimine pas en totalité. C'est ce qu'on disait, parce que la station n'est pas faite pour. Mais il reste encore une petite partie de polluants à l'intérieur.
Ok, donc si j'ai bien compris, les stations sont des bâtiments qui nettoient les eaux usées avec plusieurs étapes pour pouvoir les rejeter dans la nature sans la polluer.
Exactement, t'as tout compris, c'est ouais. Ça.
Du coup, la station d'épuration, c'est un peu comme un spa pour l'eau. Gommage, rinçage et hop, prête pour un nouveau cycle.
Ouais, fin, la prochaine fois pour ton spa, comme tu dis, masque à gaz et pince à linge.
T'abuses. Et puis l'eau, elle est assainie quand elle sort.
J'en serais pas si sûre.
Justement, chez nous, comment elle est vérifiée l'eau qu'on boit ?
Alicia, Louane, Lisa et Naomi vont pouvoir répondre à ta question.
Salut les filles, est-ce que vous buvez l'eau du robinet ?
Perso, oui.
Non, moi je bois l'eau des toilettes.
Vraiment ?
Non, je rigole.
Mais vous trouvez pas que c'est du gâchis ? On fait pipi dans de l'eau potable. Mais bon, moi, de toute façon, je préfère l'eau en bouteille.
Mais t'as raison, Louane. L'eau du robinet, elle a du calcaire. Ça lui donne un goût que je n'aime pas.
Naomi, t'es sûre que ton eau du robinet, elle est vraiment bonne ?
Mais oui, t'inquiète.
Et comment on vérifie ?
On vérifie la qualité de l'eau grâce à des procédés comme le pH-mètre, des conductivimètres et encore des humidimètres.
C'est compliqué, tout ça ! Mais moi, je sais que c'est l'ARS qui s'en occupe.
Et c'est quoi au juste, l'ARS ?
L'ARS, c'est l'Agence Régionale de Santé.
Mais du coup, ça sert à quoi ?
Ça sert à surveiller les bonnes conditions de santé dans toute la région, aussi bien pour l'eau, l'air, la pollution et même les médicaments.
Ok, bah, ils sont fiables sans doute. Ce sont des scientifiques quand même.
Ça, tu vois, je suis pas sûre qu'ils soient 100% fiables, car j'ai essayé de lire leur site internet et faire des recherches, et c'est pas clair du tout.
Ok, mais on reçoit avec nos factures d'eau des bilans de nos fournisseurs. Et chaque année, tout est clean, disent mes parents.
T'as raison, Naomi. Moi, mes parents, c'est Veolia, et toi, Lisa, je crois que c'est Suez.
Oui, mais vous êtes vraiment trop naïves, les filles. Vous les avez vraiment regardées, ces analyses ?
Non.
Moi, depuis que j'ai téléphoné à Emmanuel Raoul et son association Bien Vivre en Vaunage, je me suis rendu compte que c'était compliqué et que tout ça, c'était très flou encore une fois.
Tu veux dire que c'est des mensonges qu'ils nous envoient ?
J'ai pas dit ça, j'ai pas dit que c'était faux. C'est plus subtil, les polluants graves sont noyés dans des noyennes.
Tu veux dire qu'en fait on voit pas bien ce qu'est un polluant ? Un peu comme si dans une moyenne générale on cachait de mauvaises notes ?
Voilà, exactement. Par exemple, en Bretagne, les chiffres des nitrites dangereux pour la santé sont élevés à cause de l'élevage intensif. Et ces chiffres-là disparaissent dans la moyenne.
Dans nos eaux, il y a aussi des PFAS ou un truc comme ça. Jeanne, sur le truc d'histoire géo, vous avez grave raison les filles, il y avait une partie sur les PFAS, ça fait trop peur.
Mais non, tu les connais juste mal.
Écoute ce reportage et tu verras, tu vas peut-être changer d'avis.
L'eau du robinet en France serait contaminée par un pesticide. Problème, un très gros problème. La pollution aux pesticides, qui est polluée aux nitrates, d'eau potable. Pollution dépasse les seuils de niveau en potasse.
Nous avons investigué,
fait des recherches,
écouté des témoignages,
réalisé des expériences chimiques.
Coupé. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes ? On n'a jamais fait d'expérience chimique.
Oh oui, bon, ça va, je me suis peut-être un tout petit peu emballée. Je voulais rendre le truc un peu plus scientifique.
Bon, allez, on reprend. Tournez.
Nous avons investigué,
fait des recherches,
écouté des témoignages,
pour vous dévoiler la vérité.
C'est bizarre. Sur notre facture d'eau, ils ne nous donnent pas de détails exacts sur la qualité.
Mais oui, ils nous donnent juste le prêt à payer et la qualité approximative de l'eau.
Faudrait peut-être qu'on se renseigne pour en savoir plus, non ?
Oui, viens, on appelle Léna, peut-être qu'elle sait des choses.
Ok, je l'appelle.
Allô, Mélanie ?
Coucou, j'aurais une question.
Oui, je t'écoute.
J'ai regardé ma facture d'eau tout à l'heure, mais j'ai pas de renseignements sur la qualité. Est-ce que t'en aurais plus ?
Non, tu sais, les fournisseurs d'eau, ils en donnent pas trop de détails sur ça. Tu peux appeler un spécialiste, si tu veux, je t'envoie un numéro.
J'ai déjà essayé, mais je n'ai pas eu de réponse.
Tiens, c'est bizarre. Ils ont des choses à te reprocher. Bon, ben, on va devoir les trouver nous-mêmes, nos réponses.
Ah, j'ai trouvé. Des polluants sont présents dans l'eau. Oui, bon, ça, on le savait déjà. Mais surtout, et c'est un très gros problème, les polluants éternels.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire les PFAS. Les PFAS, attention, per- et polyfluoroalkylés, sont des substances chimiques utilisées depuis des années.
Mais pourquoi ils sont utilisés depuis tant de temps ?
Parce que les PFAS sont anti-adhésifs, imperméables et résistants à la chaleur. C'est pourquoi ils sont très présents dans tous les objets du quotidien, mais surtout dans l'eau, le sujet d'aujourd'hui.
Et pourquoi ça s'appelle des polluants éternels ?
Parce que les PFAS sont très stables et ils ne se dégradent presque pas dans l'environnement. Le problème, c'est qu'ils s'accumulent dans l'eau et peuvent avoir des effets très négatifs sur la santé.
Pour vous apporter plus d'informations, nous avons interviewé Emmanuel Raoul, qui fait partie de l'association Bien Vivre en Vaunage.
Allô ?
Bonjour.
Bonjour, vous allez bien ?
Oui, ça va et vous ?
Oui, ça va, très bien, très bien. Ça avance votre enquête ?
Oui, oui, on avance.
Justement, bon. Est-ce qu'on pourrait vous poser quelques questions pour notre enquête ?
Oui, oui, allez-y, je vous écoute.
Alors, on voudrait savoir si en Occitanie, il y a des problèmes de PFAS dans l'eau potable.
Oui, il y en a. Il y en a en particulier de manière très, très aiguë dans certains endroits, comme par exemple dans la commune de Salindres, parce que là-bas, il y a une usine qui fabrique des PFAS. Ils rejettent des PFAS dans l'air et dans la rivière qui coule à côté de Salindres.
Mais du coup, est-ce qu'il y a une limite de PFAS ?
Alors, jusqu'ici, il n'y en avait pas, parce que c'est une nouvelle classe de polluants qu'on est en train de prendre conscience. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de réglementation concernant les PFAS.
Ok, mais du coup, ça veut dire en fait qu'on buvait des PFAS sans le savoir ?
Probablement, oui.
On aimerait savoir s'il y a un réel danger pour la santé.
Alors, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que un certain nombre de PFAS effectivement présentent des risques pour la santé humaine, risque de cancer, risque de perturbateurs endocriniens, enfin risque de maladies hormonales. Maintenant, aujourd'hui, on ne sait pas scientifiquement si boire un peu tous les jours des petites quantités de PFAS va nous rendre malades ou pas. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais il y a une loi qui vient d'être adoptée pour interdire les PFAS. Donc ça, cette loi, elle est tombée, elle tombe bien, elle est proposée par les écolos pour essayer de réduire cette quantité de PFAS dans notre environnement.
Est-ce qu'il y a des solutions pour éliminer les PFAS?
La première solution, ce serait de cesser d'en produire ou d'en produire moins. Donc ça, c'est au niveau des industriels de la chimie.
Ok, bon bah on a fait le tour des questions. Merci beaucoup. Ouais.
Merci beaucoup. Eh ben de rien, et bonne continuation, à bientôt.
Bon bah du coup on a une réponse.
Ouais, allez, on va faire un petit bilan.
Grâce à Emmanuel Raoul, on sait maintenant que jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de réglementation sur les PFAS. Mais heureusement, une loi a été votée.
On sait aussi que les PFAS peuvent avoir même des risques cancérigènes.
Oh non!
Et ouais.
Évidemment, la seule solution serait que les usines produisant des PFAS arrêtent complètement leur activité.
Merci de nous avoir écoutés.
Alors, tu vois, ça fait peur.
J'avoue, c'est des polluants éternels, mais il y a quand même des solutions.
Ouais, bof, pas trop quand même.
Bon, ouais, ok, mais t'as pas soif, toi? C'est bon le Perrier, sans sucre en plus.
Mais t'es folle, recrache-moi ça tout de suite.
Mais quoi, j'ai de l'eau partout maintenant. Pourquoi je devrais pas la boire?
Non, mais tu vas mourir. T'as pas entendu parler du scandale Perrier?
Bah, désolé de te voir, hein, mais non.
Mais t'es grave, hein, tu t'informes jamais en fait. Bon, je te raconte un peu vite. L'eau du Perrier est contaminée, notamment par l'hépatite A. En fait, l'eau est polluée et c'est à cause des filtres qui sont trop gros.
Allô
mais...
la Terre, ici la Lune, j'ai rien compris. Et puis c'est que de l'intox que tu dis. Je bois du Perrier depuis mes 3 ans et je suis toujours pas morte. T'es allée sur un site douteux pour avoir ces informations ou quoi? C'est que du mytho.
Mais pas du tout. Bon, tu sais quoi? Je sais pas t'expliquer cette affaire, mais ma cousine, elle est scientifique et elle t'expliquera bien mieux que moi. Elle te montrera que tu as tort et que c'est dangereux.
Ah, tu crois ça? Ben moi j'ai ma tante journaliste. Elle a travaillé sur ça longtemps. Elle te prouvera que c'est que du mensonge et je pourrai boire mon délicieux paillet tranquille.
Elle me fait pas peur ta tante. 16h, chez moi, apporte ta tante et moi ma cousine.
Marché conclu.
Salut, prête à découvrir la vraie vérité?
Et toi alors, t'es prête à boire du Perrier?
On va voir ça. Je te présente ma cousine, elle va te clouer le bec.
Bonjour, je suis Anatomie et tu dois être... Elle a bien bu?
C'est ça.
Je suis scientifique, une grande scientifique. Experte en la matière et je sais tout.
C'est ça, laisse-moi rire, je te présente ma tante.
Bonjour, je suis Marie-Vière et je suppose que tu es déshydratée, c'est ça?
Exactement.
Je suis journaliste diplômée. J'ai travaillé longtemps dans ce domaine et je suis la mieux placée pour vous dire que l'affaire Perrier est résolue.
Ah, mais pas du tout. Pour avoir fait des analyses sur ce site, je peux vous assurer que ce n'est pas réglé. Pour comprendre de quoi je parle, il faut connaître l'histoire du scandale Perrier.
Pour tout vous dire, Perrier a été créé en 1903, puis l'usine a été rachetée par Nestlé Water.
C'est exact. Un jour, le scandale a éclaté.
Du benzène dans l'eau.
Et quels sont ses risques? Parce qu'on parle du benzène comme ça, hein, mais...
Ben, ça peut causer le cancer, provoquer des maux de tête, des vertiges, irriter la peau et les yeux.
Ah ouais, rien que ça.
Mais tu disais qu'elle était présente dans l'eau?
Oui, pas hyper rassurant quand même.
Mais c'est de l'histoire ancienne maintenant, ne vous inquiétez pas. Hein.
C'est faux, aujourd'hui on attend le dernier rapport de l'ARS. L'usine risque d'arrêter la production, car il y a un autre risque de contamination virale et de cancer grave présent dans le Perrier.
Pour moi tu parles chinois. C'est-à-dire contamination virale?
C'est simple, après la venue des inspecteurs de l'eau qui ont vu que cette eau n'était pas saine, Nestlé a proposé une solution pour filtrer l'eau et empêcher les virus de se propager.
Ah mais oui, j'en ai entendu parler! Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Les microfiltres utilisés ne font pas d'effet au virus.
D'où le risque de contamination.
Les filles, en fait, je savais pour les risques de l'eau, mais mon patron à l'époque m'a interdit de publier cette affaire. Pour Perrier maintenant, il y a toujours des risques, gros et présents.
Ah mais alors qu'est-ce qu'il faut faire?
Bah, je pense que le mieux, c'est d'en parler encore pour faire réagir les gens et surtout l'entreprise Perrier. Mais quand même, plus de 3 millions de bouteilles ont été gâchées à cause de ça. Ce serait quand même dommage de renouveler l'expérience, non?
Oui, et puis finalement, c'est bien l'eau plate aussi.
Voilà, vous savez maintenant tout, ou presque, sur l'eau.
Des baignades risquées dans le vidourle jusqu'aux méga-bassines.
Des nappes phréatiques qui tirent la langue jusqu'aux PFAS qui jouent les squatteurs.
Et même un petit plongeon dans le scandale Perrier.
On a fait des investigations, on a exhumé des scandales, on a lancé l'alerte, mieux que ChatGPT. Bon, maintenant, on va vous dire, on a bossé, on a
géré.
Alors, chers auditeurs, à vous de faire attention à l'eau que vous buvez.